Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le discours musclé d'Emmanuel Macron pour défendre la PSQ, la police de sécurité du quotidien qu'il veut mettre en place. Le chef de l'État ne veut pas de policiers qui jouent au foot avec les jeunes. Dans ce journal, les explications de Laurélie Carive et le commentaire de notre invité, le chercheur Mathieu Zagrodzki. Le procès Mera, marqué aujourd'hui par le témoignage décousu et choquant de la mère d'Abdelkader et Mohamed Mera, le compte-rendu d'audience de Florence Turm. L'actualité à l'étranger, le numéro 1 chinois Xi Jinping défend la construction d'une société socialiste en Chine. Dominique André a suivi l'ouverture ce matin du 19e congrès du Parti communiste chinois. C'est un discours très ferme qu'a tenu Emmanuel Macron aujourd'hui sur les questions de sécurité. Devant 500 responsables de la police et de la gendarmerie réunis à l'Élysée, le président a enterré la police de proximité chère à la gauche. Place désormais à la PSQ, la police de sécurité du quotidien. Emmanuel Macron qui a rendu un hommage appuyé aux forces de l'ordre en première ligne face au terrorisme islamiste. Laurélie Carrie, vous avez suivi le discours du chef de l'État.
Je vous demande d'être fort et juste, a martelé le chef de l'État, fort face à la menace terroriste, 13 attentats déjoués depuis le début de l'année, face à une violence aux multiples visages et dont les forces de l'ordre sont de plus en plus les cibles. Mais j'attends aussi de vous une déontologie exemplaire, a souligné Emmanuel Macron, essentielle pour résorber la défiance qui règne dans certains quartiers. Rapprocher la police du terrain, de la population, c'est l'un des piliers de la police de sécurité du quotidien, police qui ne sera pas calquée sur la police de proximité imaginée par le gouvernement Jospin il y a 20 ans.
La police de sécurité du quotidien vise à sortir de l'opposition stérile entre police de proximité et police d'intervention. Répondre à ces attentes, ce n'est pas remettre en place une police de proximité avec des postes de police statiques dans les quartiers. Ce n'est pas, comme on l'a parfois dénoncé, aller jouer au football avec les jeunes. C'est au contraire exercer votre métier de policier qui représente une autorité, qui conforte et qui rassure, mais qui rappelle aussi les règles de vie en société chaque fois que c'est nécessaire.
Ici, pas de détails sur les effectifs ou sur les moyens alloués. Une concertation va commencer lundi pour diagnostiquer les problèmes territoire par territoire. Ici, le trafic de drogue, là, les cambriolages ou encore les rodéos sauvages. Les premières expérimentations seront menées début 2018.
L'Aurélie arrive, merci. Invité de ce journal, Mathieu Zagrodzki, chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, spécialiste des questions de sécurité publique. Bonsoir.
Bonsoir.
Mathieu Zagrodzki, on l'a entendu, Emmanuel Macron a paraphrasé Nicolas Sarkozy en affirmant que le rôle de la PSQ ne serait pas de jouer au foot avec les jeunes. Alors, est-ce que c'est une politique sarkozyste que le président veut mettre en place ?
Non, j'irai pas jusque-là. Ce qu'il a voulu présenter, c'est un équilibre entre la prévention et la répression. Il a d'ailleurs dit à un moment dans son intervention qu'il fallait cesser d'opposer police de proximité et police d'intervention. Je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que les deux sont nécessaires. Néanmoins, à ce stade, il n'est pas possible de dire exactement quels seront les contours de cette police de sécurité du quotidien. Il y a des grandes orientations qui ont été données, mais on a pu entendre qu'il allait laisser beaucoup de place à la concertation et à la construction du projet, et que les mesures concrètes ne seraient annoncées qu'à l'issue de cette phase-là qui devrait durer jusqu'à la fin de l'automne.
Comment vous définiriez cette vision macronienne de la police ?
Il y a une phrase que je retiens dans son propos, c'est quand il a dit qu'il fallait tourner le dos à une tradition policière française qui est axée sur l'ordre et qui est très centralisée, se tourner vers une approche qui est plus basée sur le service. Ce qui rappelle un petit peu le modèle, par exemple, britannique de police, où c'est le service rendu aux citoyens qui compte, et un peu moins des questions liées à la protection des institutions, par exemple. En soi, si ça se réalisait, si c'était mis en œuvre, ce serait un changement assez important, pour ne pas dire radical, dans la manière dont les politiques de sécurité sont traitées en France. Historiquement, notamment dans la période d'après-guerre, la police en France, elle est très tournée sur des enjeux de sécurité nationale, elle est tournée sur des problématiques qui sont liées au grand banditisme. Et il y a 30-40 ans, on a commencé à s'apercevoir que l'outil sécurité quotidienne avait été complètement négligé.
Mais comment expliquer tout de même ce divorce que l'on constate aujourd'hui entre la police et une partie de la population, notamment dans les quartiers populaires ?
Oui, vous faites bien de préciser que c'est avec une partie de la population. Hein. Il ne faut pas non plus exagérer ou parler de crise. Hein. Selon les sondages, il y a 80% des Français qui ont une bonne image de la police. Vous avez raison également de dire que dans un certain nombre de quartiers, il y a une relation qui est dégradée. Là aussi, les études empiriques, scientifiques sur la question le démontrent assez bien. En fait, on est dans un cercle vicieux depuis 30 ou 40 ans où, en fait, les principaux rapports qu'entretiennent les policiers et une partie de la jeunesse, ben, en fait, c'est sur des contrôles d'identité et sur des interventions. Et contrôles d'identité et interventions qui se passent souvent assez mal. Ce qui fait que, de part et d'autre, cela augmente cette perception selon laquelle le camp d'en face, entre guillemets, serait d'une certaine façon un ennemi et un groupe de personnes avec lesquelles on ne peut pas dialoguer. Alors ça s'inscrit évidemment dans un contexte social beaucoup plus général, hein, de dégradation de ces quartiers. Et je dirais que l'approche policière en France, je ne parle pas des agents sur le terrain, je parle plutôt de l'orientation générale hein, qui est donnée aux forces de police. On a beaucoup parlé des 15 dernières années, notamment de la période Sarkozy, mais généralement, la police française a toujours été orienté sur de l'intervention pure, sur de la répression, et un peu oublié la partie contact, recueil d'informations, relations en fait plus généralement avec la population. Donc au final, on en arrive à un stade où il faut réparer plusieurs décennies de dégradation.
S'agissant du récépissé que les policiers pourraient délivrer après chaque contrôle d'identité, en fait, Emmanuel Macron a écarté cette idée. Est-ce que c'est un signe envoyé aux syndicats de police qui ne veulent pas de ce récépissé ?
Il y a sans doute de ça. C'est vrai que ça n'est pas une mesure qui, a priori, serait populaire dans les rangs des forces de l'ordre. Et forcément, il faut composer avec la base. Donc il a écarté ça de façon relativement énergique, mais il l'avait déjà fait lors de la campagne. Hein. Ça ne constitue pas une surprise. Hein. Lors d'un discours qu'il avait donné en février ou mars dernier, me semble-t-il, il avait déjà dit qu'il n'était pas pour ces pratiques-là et qu'il préférait plutôt la caméra piéton, en plus d'un certain nombre de mesures qui concernent la formation. Je dirais qu'il veut s'attaquer à cette question des contrôles aux faciès et plus généralement des relations police-population et de la déontologie policière. Mais ce qui est un peu la caution de gauche de son discours de tout à l'heure, qui par ailleurs avait des aspects assez répressifs sur d'autres points. Et pour arriver à ses fins, il ne peut pas le faire contre la base. Il doit remporter son adhésion. Donc au final, il est assez logique qu'il ait tenu ces propos-là, même si on peut être en désaccord.
Mathieu Zagrodzki, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Emmanuel Macron, qui a fait aussi preuve de fermeté sur la question des migrants, « Nous accueillons mal les réfugiés et nous ne reconduisons plus les clandestins », a-t-il expliqué. Emmanuel Macron s'est fixé un objectif, reconduire, je cite, de manière intraitable, celles et ceux qui n'ont pas de titre de séjour. Dans le même temps, le président s'engage à intégrer, je cite toujours, de manière irréprochable, celles et ceux à qui nous assurons la protection de l'asile. Zulika Aziri, la mère de la fratrie Mera, a témoigné aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale à Paris. Elle n'avait qu'un but, défendre son fils Abdelkader, présent dans le box des accusés. À l'en croire, il n'a rien fait en mars 2012. Le seul coupable, c'est son autre fils, Mohamed Mera, l'auteur des tueries. Au passage, Zulika Aziri a utilisé l'argument psychiatrique pour justifier ses crimes. Mohamed était fou, a-t-elle affirmé. Un témoignage décousu que vous avez suivi, Florence Turm.
Quand elle s'était présentée à la cour le premier jour de l'audience, des insultes avaient fusé des rangs des parties civiles. Aujourd'hui, le silence est total, mais la salle comble et fébrile. Foulard jaune moutarde qui couvre ses cheveux et ses épaules, Zulika Aziri s'exprime dans un mauvais français avec l'aide d'une interprète. « Je parle pour mon fils, Abdelkader. Il est innocent. Mohamed, oui, il a fait du mal. » Et maintenant, il est mort. Je savais pas, moi, je demande pardon aux victimes. Elle s'appuie sur la barre, triture ses doigts, commence alors un interrogatoire laborieux dont le président finit par s'agacer. Madame, vous écoutez mes questions et vous répondez à l'interprète. Dans le box des accusés, Abdelkader Mera ne quitte pas sa mère des yeux, bras croisés sur la balustrade devant lui, attentif aux propos, mais visage inexpressif. Elle s'enferme dans un discours qui confine à l'absurde, refuse d'admettre les violences familiales pourtant largement démontré, ni l'incident où Abdelkader Abdelkader Merah avait asséné plusieurs coups de couteau à son frère aîné Abdel Ghani, les vidéos de décapitation que Mohamed montrait à son neveu. Reconnaît simplement qu'il lui avait dit qu'il partait en Syrie. Elle pleure tout d'un coup, brièvement, sans que l'on comprenne pourquoi. Quand il avait envie de faire quelque chose, dit-elle, on ne pouvait pas l'arrêter, il n'en faisait qu'à sa tête. Et le climat antisémite que nous ont décrit plusieurs témoins, interroge le président, la main sur le cœur, elle répond « mais non, j'ai un médecin juif ». Déclenchant une brève hilarité chez les avocats des parties civiles, la défense, elle, pourrait même renoncer à l'interroger.
Florence Thur, merci. À noter qu'en marge du procès Merah, deux hommes d'une trentaine d'années ont été interpellés ce matin en région parisienne. Ils sont soupçonnés d'avoir effectué des repérages au palais de justice de Paris où se déroule actuellement le procès. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit. En Syrie, l'État islamique a officiellement perdu hier son fief de Raqqa avec la victoire des forces démocratiques syriennes soutenues par la coalition emmenée par les Américains. Mais une certaine confusion règne aujourd'hui sur le sort des derniers djihadistes retranchés dans la ville. Certains auraient cherché à fuir Raqqa en utilisant des civils comme boucliers humains. Le récit de notre envoyé spécial Omar Waman.
Dans les rues de Raqqa, aux abords du stade et de l'hôpital national, les deux dernières poches djihadistes tombées hier, aucune trace des combattants de Daesh, dont de nombreux Européens. Pas de cadavres, pas d'images de prisonniers, le blackout total. Dans une version officielle, les forces de la coalition évoquent la reddition dans les dernières heures de cette bataille de 350 djihadistes, désormais aux mains des services de renseignements occidentaux. On compterait parmi eux 4 étrangers. Mais cette version est mise à mal par les images tournées par des journalistes syriens et diffusées sur les réseaux sociaux où l'on voit des combattants de Daesh monter dans des bus avec leurs armes près du stade et sortir de la ville dans un long convoi. Selon plusieurs sources, parmi les combattants arabes des forces de la coalition, les djihadistes auraient amené avec eux des civils pour dissuader les avions américains de pilonner ces bus qui auraient pris la direction de la province voisine de Deir ez-Zor, en partie contrôlée par le groupe État islamique. Une version catégoriquement démentie par les forces démocratiques syriennes.
Omar Waman, envoyé spécial en Syrie, de retour de Raqqa. Il y a encore dans le monde des régimes d'inspiration marxiste qui cherchent à bâtir une société socialiste. La Chine est de cela, si l'on se réfère au 19e congrès du Parti communiste chinois qui s'est ouvert ce matin à Pékin. Le président Xi Jinping devrait être sans surprise réélu pour un deuxième mandat de 5 ans. En attendant son nouveau sacre, il a tenu ce matin un discours résolument ancré dans la tradition communiste. Le reportage de Dominique André.
C'est un appel aux communistes chinois que lance Xi Jinping à l'aube d'un deuxième mandat de 5 ans. Le président, qui cumule les fonctions de chef d'État et de secrétaire général du parti, promet une nouvelle ère à son pays en bâtissant un pays socialiste moderne aux caractéristiques chinoises. Chacun doit en faire davantage pour défendre le parti, a martelé Xi Jinping.
Nous devons persister dans notre direction. Nous devons nous opposer à toute action et les paroles qui affaiblissent l'autorité de notre parti et notre système socialiste. Nous devons nous opposer à toute action qui porterait atteinte aux intérêts du peuple ou éloignerait le parti du peuple.
Xi Jinping a salué les succès de la campagne anticorruption qui a sanctionné plus d'un million de membres du parti, un nettoyage qui lui a permis d'éliminer ses adversaires. Le discours était axé aussi sur l'intégrité territoriale de la Chine opposée à l'indépendance de Taïwan. Xi a défendu à nouveau le principe d'une Chine unique. Le président de la deuxième puissance mondiale a promis d'ouvrir les portes de l'économie chinoise, un message aux entreprises étrangères lassées des promesses non tenues. Pour cette nouvelle ère qui va s'ouvrir en Chine, Xi Jinping, l'homme du rêve chinois d'une puissance retrouvée, a montré ce matin qu'il ne voulait pas s'inspirer des modèles politiques étrangers.
Dominique André, correspondante de Radio France à Pékin. Au Portugal, les incendies meurtriers qui ravagent le nord du pays provoquent une crise politique. La ministre de l'Intérieur, Constança Urbano de Sousa, a démissionné aujourd'hui. Elle était mise en cause pour n'avoir pas su empêcher la deuxième vague d'incendies mortels dans le pays. Le dernier bilan fait état de 42 morts. En juin, 64 personnes avaient déjà péri dans le feu de Pedrogan Grande. Retour en France avec la météo demain. Météo perturbée, souvent pluvieuse sur une large moitié ouest du pays, des Pyrénées à la frontière belge. Un épisode cévenol avec de fortes pluies s'est mis en place autour du golfe du Lion. L'Hérault et l'Aude sont en vigilance orange. Sur le reste du pays, temps sec et variable entre nuages et éclaircies. Les températures maximales toujours très douces pour la saison, de 17 à 21 degrés en général, jusqu'à 24 degrés dans le nord-est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.